Et c'est parti pour le journal. Élodie Largenton, bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. À la une, cette info Radio 1, le maire de Papara et deux de ses élus ont été placés hier en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'association Taatira Yaora Papara. 5 jeunes ont été écroués après la bagarre d'Atima Ono. C'était le week-end dernier. Plusieurs gendarmes avaient été pris à partie, frappés et caillassés. Plus de détails dans ce journal sur les circonstances de la bagarre. Combien de cancers liés au nucléaire au Fénois ? Question posée hier à l'Assemblée par une élue UPLD. On entendra la réponse du ministre de la Santé. Et puis EDT Engie mise sur l'hydroélectricité avec son projet Hydromax dans la vallée de Tita Aviri à Papéari.
C'est une information Radio 1. Le maire de Papara et deux de ses conseillers municipaux ont été placés en garde à vue.
Puteitae, son adjoint Jean Torroja et son conseiller municipal Charles Villers ont en effet été placés en garde à vue hier à la section de recherche de la gendarmerie. Ils sont entendus dans le cadre de l'enquête préliminaire sur le fonctionnement de l'association Taatira Yaora Papara. En août dernier, les domiciles des trois élus avaient déjà été perquisitionnés en même temps que la mairie. Les enquêteurs s'intéressent toujours à la gestion de cette curieuse association culturelle qui avait récolté en 2016 la totalité du budget annuel des subventions aux associations de la commune. Et cela alors que l'association était présidée à l'époque par l'adjoint au maire de Papara et administrée par une bonne partie de la majorité au conseil municipal. Le maire Puteitae était d'ailleurs le président d'honneur de cette association.
Justice également avec les suites de la bagarre qui s'est déroulée le week-end dernier à la sortie d'un concert organisé au restaurant du golfe d'Atima Ono à Papara.
Plusieurs gendarmes avaient été pris à partie, insultés, frappés et caillassés. Hier, 5 jeunes hommes ont été présentés en comparution immédiate. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur les circonstances de cette bagarre générale. Antoine Samoyau.
Les gendarmes étaient en fait venus à Atima Ono à la recherche d'une jeune fille en fugue, vraisemblablement présente à la soirée. Ils avaient prévu d'attendre la fin du concert pour faire une annonce au micro, mais à la fin de la soirée, des bagarres ont éclaté. Les gendarmes présents sur place sont donc intervenus, et c'est à ce moment que la situation s'est envenimée. Un militaire a notamment été frappé au visage, puis dans le dos avant de chuter au sol et d'être assailli par les belligérants. Ses collègues ont lancé des bombes lacrymogènes pour disperser la foule, et les assaillants ont alors attaqué les gendarmes à coups de pierre. Hier après-midi, les 5 prévenus ont demandé un délai pour préparer leur défense. C'est leur droit, en comparution immédiate. Des profils sans véritable lourd casier judiciaire, principalement en recherche d'emploi, mais pour la plupart diplômés et insérés socialement selon le juge. Tous ont globalement reconnu les faits, mettant leur comportement sur le compte de l'alcool. Le procès a été fixé au 28 décembre prochain. Dans l'attente, les 5 prévenus ont été placés en détention provisoire à Nountania.
Toujours au chapitre judiciaire. Alors, le grondement que vous entendez derrière nous, il n'y a pas de parasitage, hein. C'est simplement la grosse drache qu'on est en train de se prendre sur la tête, sur Faleouté. Donc, toujours au chapitre judiciaire, le procès en appel des emplois fictifs de l'ancien président Gaston Tong-Sang et de ses anciens ministres, Clarence Vernaudon et Fernand Romataroa.
L'affaire concerne les recrutements politiques en surnombre dans les cabinets des ministres des Sports et de l'Agriculture en 2008. Hier, on appelle l'avocat général à demander la confirmation des peines prononcées en première instance, soit pour Gaston Tong-Sang, 1 an de prison avec sursis et 2 millions de francs d'amende. Décision le 8 mars.
Le pays passe à l'offensive en ce qui concerne le navire taïwanais qui s'est échoué le 5 novembre dernier à Maruteanor, au Tuamotu.
L'armateur est sommé de retirer son épave et de prendre toutes les mesures de prévention de la pollution dans un délai de 15 jours. Si ça n'est pas respecté, une astreinte de 500 000 francs par jour de retard est prévue. Rappelons que les 15 marins qui étaient à bord avaient été secourus par le GRCC Papeete lors du naufrage.
À quelques mois des élections territoriales, le nucléaire s'est invité à l'Assemblée hier.
L'élu UPLD Eliane Tevahitoua a interrogé le gouvernement sur le nombre actualisé de cancers liés aux maladies radio-induites depuis le premier essai nucléaire en 1966. Une question difficile à résoudre précisément, lui a répondu le ministre de la Santé. Jacques Rénal a promis une réponse plus détaillée d'ici une dizaine de jours, mais il a donné des premiers chiffres sur les tumeurs malignes qui ne comprennent pas que les maladies radio-induites. On l'écoute.
En 2016, nous avons à l'heure actuelle 4951 patients distincts qui ont été atteints d'une maladie tumorale. La variation annuelle se situe entre 10 et 5%. Actuellement, l'augmentation est de 5% par an.
À l'issue de son intervention, Oscar Temaro a réclamé la parole. Le chef de file des indépendantistes a soulevé la question de la responsabilité des médecins.
Il y a eu une émission à la télévision où on a parlé du silence. L'État a acheté le silence des élus de l'époque et d'aujourd'hui. Et on ne parle que des élus. Je pense que les médecins qui ont exercé chez nous à cette époque-là, qui ont fait le serment d'Hippocrate, on ne peut pas les exonérer de ces propos-là. Ils auraient dû être les premiers à dénoncer ces études nucléaires qui ont eu lieu. Et j'espère tenter que vous n'en faites pas partie de ces médecins-là. C'est ça le but de mes propos.
Des propos tenus à l'Assemblée lors de la séance d'hier.
EDT Engie fait sa transition énergétique. C'est le message qu'a voulu faire passer en tout cas le groupe hier en inaugurant notamment son projet Hydromax.
Il s'agit d'un projet d'optimisation des capacités des installations hydroélectriques. Il a été installé au fond de la vallée de Titaviri à Papéhari. 6 mois de travaux et 140 millions de francs ont été nécessaires. La vallée comporte 2 barrages, 1 captage et 3 turbines. Pour développer la capacité énergétique des turbines, les canalisations ont été doublées et qui dit 2 fois plus de canalisation dit 2 fois plus d'eau et donc d'énergie générée par les turbines. Les précisions du PDG de EDT Engie, Grégoire de Chiaz.
Là, en fait, vous avez un barrage en amont, un captage d'eau, un barrage dans lequel l'eau est retenue et en pied de barrage, vous avez une conduite forcée dans laquelle l'eau s'engouffre sous pression et plus en aval, vous avez une centrale de production, une turbine qui génère de l'électricité. Et donc, ce que nous avons décidé de faire ici, c'est de doubler la conduite forcée sur 1800 mètres pour accélérer, pour augmenter le potentiel de production sur la centrale en aval.
Le PDG de EDT Engie précise que c'est la concrétisation des accords signés avec le pays fin 2015, accord visant à développer les capacités de production d'énergie renouvelable sur Maramanoui. Dans son plan de transition énergétique, le pays s'est en effet fixé de passer à 50% d'énergie renouvelable d'ici 2020. Dans ce cadre, EDT Engie mise donc sur l'hydroélectricité. L'entreprise a aussi mis en place ce qu'elle appelle une salle de dispatching, une salle ultramoderne composée d'ordinateurs recevant toutes les informations des équipements de production thermique, hydroélectrique et photovoltaïque de Tahiti. Son rôle, c'est de répartir la production en fonction de la consommation, en veillant à toujours garder un équilibre. On écoute le directeur général adjoint en charge de la technique, François Dupont.
La première règle, c'est la priorité aux énergies renouvelables, c'est-à-dire toujours utiliser d'abord les énergies renouvelables, hydroélectriques et solaires, avant d'utiliser les énergies thermiques.
Ça représente quelle part du coût ?
Alors aujourd'hui, on est à 40% d'énergie renouvelable, hein, de 35% en gros d'hydroélectricité, 5% de solaire et encore 60% de thermique.
Pour l'administrateur du groupe Engie, Frédéric Martin, ces installations sont tout à fait adaptées à une nouvelle génération de réseaux électriques, des réseaux qui doivent réaliser leur transition énergétique pour se préparer davantage à l'énergie renouvelable.
Les évolutions sur les systèmes énergétiques conduisent à des installations de plus en plus vertes, le décarboné, de plus en plus décentralisé, c'est d'aller au plus près avec des installations de plus petite puissance. On voit aujourd'hui en moins de 5 ans, enfin moins de 10 ans, il y a plus de 1500 producteurs de photovoltaïques sur l'île de Tahiti. Et puis surtout une dimension qui n'existait pas il y a 5 ans encore, la notion du digital, c'est-à-dire que la capacité aujourd'hui de l'ensemble des objets à communiquer, à transmettre des informations et qui permettent aujourd'hui de réguler de manière beaucoup plus fine les réseaux. Et donc l'adaptation du dispatching de la société EDT permet aujourd'hui de préparer l'ensemble de la Polynésie à l'avenir. C'est la montée en puissance des fonctions solaires sur l'ensemble des habitations au niveau de Tahiti, mais également l'intégration, l'optimisation des outils de production hydroélectrique et puis l'arrivée de nouveaux outils de production qui vont permettre tous ensemble de collecter, de monter le taux d'énergie renouvelable sur l'île.
Des propos recueillis par Valentine Bluet.
Et puis le tournoi de boxe des mini-jeux du Vanuatu, c'est terminé.
Un résultat, 2 champions tahitiens, Heima Tagnefer et Amoroa Atiu ont décroché l'or. Torea Jubeli doit se contenter de l'argent, il a été battu en finale. Lors de la cérémonie de remise des prix, il n'y a pas eu d'hymne tahitien, puisque ces boxeurs concouraient, on le rappelle, sous la bannière du Conseil des Jeux.